Tout a commencé avec Jacques Canetti.
Et je m'en vais clopin, clopin, dans le soleil, dans le vent.
Il me prendrait et puis je nagerai dans le bonheur, je nagerai dans le bonheur.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive.
Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe.
Et pourquoi vous ne chanteriez pas ?
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour, une heure de radio sur la musique. En musique, c'est une joie de vous retrouver pour une émission toujours libre. Toutes les substances, de toutes les provenances, de toutes les époques, traversées par les figures les plus flamboyantes, les plus décisives aussi. Une émission placée sous le signe de la chanson et du courage aujourd'hui. C'est la série musicale sur France Culture. Brassens l'appelait Socrate, mais il s'appelait en réalité Jacques Canetti. Alors peut-être que vous connaissez ce nom si vous êtes un aficionado de la chanson française. Peut-être qu'il vous dit seulement vaguement quelque chose puisqu'il apparaissait sur les disques qu'il produisait à la fin de sa vie. Jacques Canetti présente. Peut-être vous rappelle-t-il celui de son frère aîné, Elias, prix Nobel de littérature, en toute simplicité. Et peut-être que ce nom ne vous dit rien du tout, comme à moi, il y a quelques années. Et pourtant, Jacques Canetti fut vraiment à la chanson française ce que Socrate fut à la pensée. La chanson française la plus belle, la plus grande, la plus noble, celle qu'on écoute sans jamais s'enlacer. Il maîtrisait l'art de la maïeutique, en fait. La maïeutique, c'est cette méthode qui permet la mise en forme de pensées confuses par le dialogue, nous dit Platon. La méthode Canetti, si elle existe, elle a permis à un jeune homme juif émigré à Paris d'inventer non seulement le radio-crochet, mais de découvrir, de produire tout ce que la chanson française du XXe siècle a été de mieux. C'est-à-dire d'Édith Piaf à Brigitte Fontaine, de Charles Trenet à Boris Vian, de Michel Legrand à Georges Brassens, Michel Legrand qu'on écoute ici dans l'un de ses tout premiers disques. Tous ces génies-là, c'est Jacques Canetti qui les a fait accoucher et qui nous les a donnés à entendre. Et à l'occasion du génial livre que sa fille Françoise lui consacre en cette rentrée, la série musicale rend à Canetti ce que l'on doit à Canetti, épopée en deux parties, comme toujours subjective et fatalement non exhaustive, tout de suite sur France Culture.
Je l'ai appelé Socrate à une époque parce qu'il m'a semblé qu'il avait une dialectique assez voisine de celle de Socrate. Il essayait, Canetti, chaque fois de vous persuader que ce qu'il pensait, c'était vous qui le pensiez. Ce qu'il voulait vous faire faire, c'était vous qui vouliez
ah oui,
le faire.
Alors, l'ironie socratique.
C'est ça.
Quelle est la grande qualité de Canetti ? C'est parce que son choix a été tellement éclectique.
De qualité, il en a beaucoup, mais pour moi, la qualité la plus éminente de Canetti, c'est qu'il travaille toujours sans tenir aucun compte de la mode. Il montre une prédilection marquée pour les choses qui précisément naviguent à contre-courant. Il n'exige pas le succès immédiat d'un artiste, alors que la plupart des producteurs essaient de vous faire ressembler à la vedette à la mode. Lui, au contraire, il essaie de vous différencier des vedettes à la mode. Si on fait tel genre aujourd'hui, il essaie, Canetti, de vous inciter à faire le genre contraire.
Thank you.
Vous écoutez ici les doigts de la toute jeune Clara Askill, mythique, pianiste concertiste dans l'un de ses tout premiers enregistrements, ici d'un capriccio pour piano en ut dièse de Johannes Brahms. Et cet enregistrement, il est supervisé par un non moins jeune Jacques Canetti, inventeur d'un système à 360 degrés qui va découvrir, produire les disques, faire jouer des plus grands artistes de la chanson française du XXe siècle. C'est une histoire complètement folle que celle de cet homme, né non pas Jacques, mais Nissim Canetti, à Roustouk, en Bulgarie, puis élevé en Angleterre par une mère, Mathilde, veuve à 27 ans, qui va faire des trois garçons qu'elle a eus d'un certain Jacques Canetti, le père, qui va faire de ces trois garçons trois figures centrales pour l'Europe du XXe siècle. L'aîné s'appelle Elias Canetti. Il sera prix Nobel de littérature en 1981 pour une œuvre qu'il aura entièrement écrite et pensée en allemand. Le troisième, Georges, sera un médecin, un des plus grands batailleurs contre la tuberculose dont il était lui-même atteint. Et celui du milieu, c'est ce fameux Jacques. Jacques qui arrive en France alors qu'il est adolescent en 1926, au moment de la montée du nazisme. Très cultivé, sa mère lui a fait parler quatre langues dès l'enfance, qui joue du piano et qui, alors qu'il est reçu à HEC en 1928, découvre le music hall, le jazz, qui plaque ses études pour entrer dans une toute jeune maison de disques, Polydor. On est en 1930 et la maison de disques avait fait paraître une annonce dans la presse « Cherche jeune homme aimant la musique ». Polydor représente la Deutsche Grammophon et c'est comme ça qu'un jeune Canetti d'à peine 25 ans va assister à l'enregistrement du Boléro de Ravel par Ravel lui-même, mais aussi donc produire les premiers disques de Clara Askill. Mais c'est déjà l'homme qu'il restera toute sa vie, un enthousiaste effrémé qui tente tous les coups. Il est l'un des premiers à comprendre l'importance du jazz venu des États-Unis et à tenter de faire venir les meilleurs jazzmen du monde et à les faire enregistrer en France. Savez-vous que c'est à lui qu'on doit la venue de Duke Ellington, puis surtout de Louis Armstrong, qui réalise grâce à lui leurs premiers enregistrements et leurs premiers concerts français. On est en 1933.
What's the matter with you, boy? Don't you know I got a right to sing the blues? Listen at this. Look out. One, two.
Yeah. I got a right to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around. Down among the river. A certain gal in this old town keeps dragging my poor heart around. Babe, all I see from me in misery. Oh, I got a right to moan and sigh. Got a right to sit and cry down among the river. Oh, babe, I know the deep blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues.
Thank you.
La voix, la trompette super juvénile de Louis Armstrong dans I Got the Right to Sing the Blues. On est en 1933. 1933, c'est la montée du jazz et ça, Jack Canetti, tout jeune, l'a bien compris, mais c'est aussi la montée du nazisme. Et le jeune homme, le tout jeune Jack Canetti, juif séfarade, qui porte ce nom hérité des juifs qui avaient fui l'Espagne au 15e siècle, ce tout jeune homme qui vient d'arriver chez Polydor et a réalisé déjà un petit coup, apprend que la grande Marlène Dietrich, immense star, puisqu'elle vient de triompher dans L'Ange Bleu, le grand film de Sternberg, dont lui a beaucoup parlé son frère Elias, qui vit entre Berlin et Vienne. Jack Canetti apprend que Marlène Dietrich est à Paris et qu'en plus elle est intéressée par l'idée de peut-être chanter en français. Il a 23 ans, il est tout maigre, il a à peine un bon costume, mais, écrit sa fille dans l'excellente biographie qu'elle lui consacre en cette rentrée, il est audacieux et il veut donner la preuve qu'il peut tout tenter. Il la suit à l'hôtel Trianon où elle est descendue à Versailles et lui essaie de la convaincre qu'il est l'homme pour lui faire enregistrer des chansons. Elle lui dit qu'il n'a probablement pas ce qu'elle cherche, mais en deux jours, parti de rien, il va trouver des textes complètement étonnants de Wahlberg et Jean Tranchant, Assez et Je m'ennuie, deux petits chefs-d'œuvre qu'on n'écoute pas assez à mon goût. Et c'est le petit jeune homme amusant qui sera son seul contact avec la maison de disques française. Elle est assez d'accord avec les textes, elle décide d'enregistrer, mais le courant passe très mal entre les auteurs et le compositeur et chef d'orchestre Peter Kreuder, qui est allemand, alors que les deux compositeurs sont juifs. Et la session d'enregistrement va tourner au calvaire. Canetti a alors l'idée d'appeler à la rescousse justement un orchestre de musiciens noirs qu'il a monté à Montmartre le soir, dans ses à côté avec le pianiste Freddie Johnson et le trompettiste Arthur Briggs. Et là, ça prend. Quand elle quitte à Paris avec ses disques, Marlène ignorait qu'elle laissait derrière elle un jeune homme tout prêt à réaliser ses rêves les plus fous.
Allons, lève-toi, va-t'en, pars. Le lit n'est pas trop grand pour moi, qui suis lasse de t'aimer, t'aimer. Oui, tu m'ennuies avec tes grands mots d'adieu, moi. J'ai horreur de tous ces discours, mon vieux. L'or me dégoûte et je déteste la cour. Rien ne me plaît, rien que l'amour. Pars gentiment sans gémir sur tes malheurs. Va, tu auras bientôt calmé ta douleur. Je ris de tous ces sentiments dont mon cœur est lassé, lassé. Allons, lève-toi, va-t'en, pars. Le lit n'est pas trop grand pour moi, qui suis lasse de t'aimer, t'aimer. Oui, tu m'ennuies avec tes grands mots d'adieu. Moi, j'ai horreur de tous ces discours, mon vieux. L'homme me dégoûte et je déteste la cour. Rien ne me plaît, rien que l'amour. De tous ces... ces sentiments dont mon cœur est lassé. Assez.
D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez, dans la nuit, elle chante ce refrain. C'est nous les môumes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Nous avons pourtant le cœur fort exigeant, mais personne n'en veut. Ben tant pis pour eux, qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche. Mais comme elles n'ont pas les toilettes qu'il faut pour les quartiers urbains, ce n'est pas aux galeries Lafayette qu'elles vont faire chaque soir leur turbin. Le long du canal Saint-Martin, au Céveste ou à la chapelle, on est toujours assez gondin. Pour le monsieur qui vous appelle, c'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou. Y'a pas de poupée en soi au bazar à 30 sous. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Tout comme nos ribouis, nous sommes pas vernis. Jamais l'on n'ira sur la Riviera, que ça fout, on s'en fout. Quand la jambe nous chauffe, on va faire 4 jours là-bas, à la tour, les mômes de la cloche. Elles ont vendu toutes leurs caresses, elles furent payées tant bien que mal. Puis un jour plus rien dans la caisse, elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir, comme un cheval, la pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit, ah, oh, mais ce n'est qu'une grue. Et voilà comment nos poupées, nos pantins, lorsqu'elles n'ont plus la sou, s'en vont tout à pantin. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans amis, sans proches. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, jamais l'on ne voit ni fleur, ni couronne, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Quand la mort nous penche, oh, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonne pour le monde de la cloche.
Le tout premier disque, la toute première chanson enregistrée par Edith Piaf, on est en 1936, c'est Les Mômes de la Cloche. C'était Jacques Canetti qui est évidemment derrière cet enregistrement. Les Mômes de la Cloche qui décrit, chanson réaliste, hein, la réalité hyper dure qui touche les femmes des milieux populaires. Et à ce moment-là, Edith Piaf, avec sa voix, en fait délibérément partie. 1936, c'est une époque où Edith Piaf chante dans un cabaret, le cabaret Les Plaies, où elle rencontre un succès hallucinant. Elle reste plusieurs semaines à l'affiche de ce cabaret où Jacques Canetti la rencontre. C'est bien Jacques Canetti qui va permettre à Edith Piaf de trouver ses premiers engagements payés en dehors du cabaret, notamment lui dégoter un petit rôle dans un film. Mais très vite, Le Play, le propriétaire du cabaret, est assassiné. Assassiné, dit-on, par des anciens amants, des anciens amis, des petites frappes de Pigalle et qui sont liées à Edith Piaf. Edith Piaf qui est soupçonnée par la police et qui redescend dans le caniveau. C'est Jacques Canetti qui va lui donner à nouveau sa chance à la radio, car oui, en 1934, lorsque Marcène Bluchstein-Banchet, qui dirige Polydor, va nommer Jacques Canetti directeur artistique, directeur des programmes de Radio Cité, ses activités discographiques radiophoniques vont toutes se mêler. En fait, il devient Jacques Canetti, cet homme qui à la fois produit des disques et à la fois invente la radio telle qu'on la connaît. C'est lui qui va mettre en place des émissions hyper populaires, des concerts de musique classique, mais surtout des émissions d'un nouveau genre, notamment le Music Hall des jeunes, une émission d'un genre complètement nouveau, où on entend les tout jeunes chanteurs qu'on n'avait jamais entendus avant, mais aussi des radio-crochets. C'est comme ça qu'Edith Piaf va réussir à faire un vrai retour et à lancer sa carrière, comme Jacques Canetti le racontait lui-même.
Piaf, en train de monter les escaliers de Radio Cité, boulevard Haussmann, elle était fantastique, elle était minable comme aspect, vraiment ce que ça s'appelle minable, mais j'étais tellement, comment dirais-je, émerveillé, et ça a été mais quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas penser que des choses pareilles existent. Voilà une fille inconnue, vient à un poste archi-connu. Elle passe à une heure formidable, c'est-à-dire à midi. Elle était engagée pour 15 minutes. À partir de midi, 5 minutes, ça téléphonait de tous les côtés. Et ça téléphonait. Tout le monde, tous les gens téléphonaient pour savoir mais qui est donc cette fille. Alors, je dis à Piaf, moi je vais vous engager pendant 13 semaines, vous allez venir et chanter vos chansons. Elle me dit lesquelles. Parce qu'elle était comme ça. Je dis, bah, les chansons que vous avez envie. Oh, elle dit, moi, j'ai envie de toutes les chansons. Elle est devenue la super vedette. Et moi, en ce qui me concerne, elle est devenue très copain, Piaf et moi. Elle me montrait ses chansons. Moi, j'ai enregistré 51 chansons de Piaf. C'est bien, hein? 51 chansons de Piaf, une plus belle que l'autre. Et c'était la période où Piaf ne cherchait pas à faire mieux. Elle faisait bien, elle faisait très bien, mais elle ne cherchait pas exprès à être plus brillant. Enfin, il faut avoir connu cette période pour comprendre la raison pour laquelle moi je me suis tellement attaché à Piaf.
Comme ça d'une fille de rien,
mais c'est une personne très bien.
Je suis princesse d'un château
où tout est clair, où tout est beau.
Un grand jardin rempli de fleurs, dans le ciel bleu plane mon cœur. Des fleurs aux arbres sans clochons sont toujours blanches comme au le long des routes en se moquant du temps. Il chante pour qu'il écoute les cheveux dans le vent.
Bon, bon, bon.
C'est un vagabond qui est joli garçon. Il chante des chansons. La la. Cette histoire n'est pas vraie.
Ce n'est qu'un rêve qu'elle a fait.
Et quand je me suis éveillé,
le soleil était sur l'oreiller.
Et chaque soir quand je m'endors, je cherche en vain mon rêve d'or. Cette fois je quitterai mon château.
L'extraordinaire modernité, donc, de Jacques Canetti, qui à la fois déniche des talents, qui comprend à la fois la modernité du jazz, celle de la chanson réaliste et comment l'emmener vers des vrais succès populaires. C'est aussi un homme qui va beaucoup compter dans ce qu'on appelle l'analyse et l'utilisation des tuyaux, puisqu'on l'a dit, il prend donc la tête des programmes de Radio Cité, une des radios les plus importantes, c'est l'heure de gloire de la TSF, et c'est lui qui va inventer des formats qu'on retrouve encore. Je vous rappelle qu'en plein retour de la Star Academy, il est quand même
génial de réécouter les tout premiers Radio Crochet de la radio. Entre 1936 et 1939, ce Radio Crochet est une émission qu'on écoute beaucoup en France. Vous allez le voir, c'est des postures tout à fait nouvelles hein, pour les Français qui à la fois peuvent entendre des chanteurs amateurs, mais aussi se présenter. C'est aussi lui, pour financer ces Radio Crochet, qui va trouver des annonceurs, en l'occurrence Montsavon, et pour qui il va composer des jingles, des publicités chantées. Enfin bref, Jack Canetti maîtrise tout et ça s'entend très bien.
Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9.
Mes chers auditeurs, vous allez entendre la retransmission du crochet radiophonique présenté par Jean Granier.
Si vous voulez un savon de toilette qui soit doux, lait, qui mousse et sente bon, un seul nom doit vous venir en tête. Mon savon, mon savon, mon savon.
Olé.
Mes chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes dans la grande et belle salle du Normandie, comme tous les lundis. Et maintenant, les épreuves du crochet vont commencer. Et le premier concurrent qui se tient sur le seuil de la porte, comme s'il allait plonger de 16 mètres de hauteur... Ah non, 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 il n'a pas peur du tout. Avancez, monsieur, c'est un jeune homme qui a l'air fort, courageux, bien planté, avec des cheveux noirs. Et là, la jeunesse inscrite sur le visage. C'est monsieur Lucien Rémy. Monsieur Lucien Rémy, qui habite 44 rue Malzeau à Paris, est ébéniste. Quel âge avez-vous, monsieur ?
37 ans.
37 ans. Et vous ne les paraissez même pas, Vénard. Il porte un complet gris, une cravate grise et violette, sur une chemise bleue. Et il va nous chanter...
Comme la plume au vent de Rigoletto.
Comme la plume au vent de Rigoletto.
Comme la plume au vent, femme volage, et bien peu sage, qui s'y fit un instant. Trompé par leurs deux yeux, j'ai l'air d'y croire, bornant ma gloire, à tromper encore mieux. Femme farie, femme farie, folle qui s'y fit.
Après cet excellent concurrent,
le charme de ces tout premiers télécrochets où arrivent des jeunes hommes qui, comme vous l'entendez, chantent encore beaucoup d'opéras, d'opérettes, car oui, la chanson et globalement la musique qu'on écoute dans les années 30 est encore extrêmement empreinte de la tradition de musique de scène. On le sait, grâce à notre émission sur les crooners, l'usage du micro est encore difficile, peu connu. C'est grâce aussi à Jacques Canetti que va débarquer une toute nouvelle génération de chanteurs qui utilise lui des rythmes syncopés, qui va violemment faire entrer la France presque des j'ai payé dans la modernité. Et évidemment, cela commence par un chanteur qui s'appelle Charles Trenet et qui va débuter justement dans la fameuse émission Le Music Hall des Jeunes.
Le Music Hall des Jeunes permettait chaque semaine de passer des jeunes chanteurs. Il n'y avait pas beaucoup d'auteurs à cette époque-là. C'était surtout des jeunes chanteurs qui venaient. Trenet, je connaissais vaguement parce qu'il s'appelait Charlie Johnny à l'époque. Et puis, un pianiste de mes amis, Émile Stern, m'a dit, il faudrait que tu écoutes Trenet seul, tu vas voir, il est formidable. Et puis, Trenet est venu auditionner. Et puis, écoutez... Ça a été une explosion pour moi, parce qu'il m'a chanté comme ça, tout de suite, il y a de la joie, avec Stern au piano, qui est un merveilleux pianiste. Mm-hmm. Ça m'a commotionné quand j'ai entendu ça. Et alors j'ai modifié l'ordre de mes programmes, le Music Hall des Jeunes, et j'ai dit à Trenet, vous passez après-demain. Parce qu'habituellement, il y avait quand même un petit laps. Et Trenet a dit, oui, il me semblait de temps, je fais mon service militaire. Je dis, ça fait rien, on va téléphoner à votre colonel à Versailles, puis on va lui demander qu'il vous laisse sortir. Et puis Trenet donc venu, j'avais comme présidente, car à chacune de ces séances de Music Hall des Jeunes, il y avait Miss Tinguette. Tenez-vous bien, Miss Tinguette, qui connaissait quelque chose quand même. Moi, j'ai jamais aimé Miss Tinguette beaucoup, je trouvais ça criard et vulgaire, mais enfin, elle était là. Et quand Trainet est arrivé, ça a été fulgurant, parce que Trainet a chanté Il y a de la joie, la salle s'est pratiquement levée, lui a fait une ovation, il était inconnu. Ce qu'il disait comme parole, c'était quand même légèrement poétique, surréaliste. Enfin, c'était pas la chanson de l'époque. Et les gens hurlaient, tout ça. Je suis donc, à ce moment-là, pendant que les gens applaudissaient, je suis allé dans la loge de Miss Tinguette pour lui dire « Miss, ça va être à vous, car c'est elle qui devait terminer l'émission. » Puis quand je suis arrivé, elle m'a dit « Non, mais dis donc, tu crois pas que je vais passer derrière ce type-là? Mais il est formidable. Mais enfin, je vais me ramasser. Je peux pas. C'est impossible. » Elle avait raison. Alors je suis vite retourné à la scène. J'ai dit à Trainet, Charles, faut enchaîner, faut la rechanter. Et ça a été la seule et unique fois dans une émission publique de ce genre que le candidat a chanté deux fois la même chanson. Puis ça a été un rêve, parce que ça a été tellement vite. L'ascension de Trainet, ça a été foudroyant.
C'est fleurs bleues, un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Des mots difficiles à dire, c'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, c'est fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleurs bleues. On envoie des pneumatiques à fleurs bleues. Les dimanches sont poétiques, tout fleurs bleues. On se met du cosmétique dans les cheveux, oui, parbleu, pour fleurs bleues. On jure que l'on s'adore tous les deux, et l'on jurerait encore si fleurs bleues ne vous plaquait ça, c'est vache, pour un dragon, un moustache, ah, morbleu. Elle n'est pas revenue, mystérieux, oui, a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux, larmes aux yeux, larmes aux yeux. Mais soudain le cœur bat vite, oh mon Dieu. La voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle qu'elle drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps, l'automne, sans fleur bleue, coule des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je fredonne sans fleur bleue devient vieux, ennuyeux. Pourtant ne soyons pas tristes pour fleurs bleues. Jeanne est là toute une liste, c'est bien mieux. Amourette passagère, joie peine de cœur légère, oui, fleurs bleues. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Difficile à dire, c'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, c'est fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleurs bleues.
Et voilà maintenant pour finir un maroquinier. C'est notre dernier concurrent. Notre dernier concurrent est jeune, il se présente bien. Il a 18 ans d'ailleurs. Il va nous chanter Fleur Bleue. Il y a longtemps que je ne l'avais pas dit, il a un bon physique de théâtre.
Un doux parfum qu'on respire, c'est Fleur Bleue. Un regard qui vous attire, c'est Fleur Bleue. Des mots difficiles à dire, c'est Fleur Bleue. C'est Fleur Bleue, c'est Fleur Bleue. Un rendez-vous à la famille, c'est Fleur Bleue.
Vous l'avez vu, le génie de Jacques Canetti. D'un côté, il produit Charles Trainet dans le music hall des jeunes. Dans l'autre, le Radio Crochet voit des candidats plus ou moins doués reprendre ces chansons qui sont en train de métamorphoser la France. Tout cela sur Radio Cité, donc, dont Jacques Canetti est directeur des programmes. Et en 1938, il qu'il fait la connaissance d'un certain Pierre Dac. Pierre Dac qui va produire pour lui un spectacle, Le Club des Loufoques, qui va être retransmis en direct sur Radio Cité. Pierre Dac, c'est cet homme complètement fou, cet humoriste chansonnier qui a fondé à l'époque un journal satirique, L'Os à Moelle, avec fausses dépêches et petites annonces en tout genre, du type Vent fou, allier, ficelle fournie. C'est avec Pierre Dac, en fait, que Jacques Canetti va réussir à traverser la très difficile période de la guerre, puisque après la capitulation de la France en 1940, Jacques Canetti, qui est juif, rappelons-le, quitte Paris pour rejoindre la zone libre, puis ensuite s'engager à Alger, où il prend la direction de Radio Alger, à qui il va donner le nom de Radio France, pour suivre le général de Gaulle. Mais il est en opposition avec sa direction, et donc il va sillonner l'Algérie avec une troupe de chansonniers, d'humoristes, avec une troupe qu'il baptisera le Théâtre des Trois Ânes. Grand succès dans toute l'Algérie. Mais ensuite, quand la guerre se termine et qu'il faut rentrer à Paris, il tente, Jacques Canetti, de retrouver son catalogue. Or, quasiment tous les artistes ont vieilli ou ont arrêté de faire de la chanson, à l'exception notable d'Edith Piaf, bien sûr. C'est là que Jacques Canetti va fonder un lieu qui va diriger ensuite pendant plus de 20 ans et qui va compter beaucoup, beaucoup dans l'histoire de la culture française. Ce sont les Trois Baudets, évidemment, sur les grands boulevards Pigalle parisiens. Un lieu où, évidemment, Pierre Dac fait figure de star. C'est lui qui donne le ton Canetti à cette toute petite salle, assez microscopique. Grand succès d'estime. Pierre Dac qui va rencontrer là-bas un compère qui va beaucoup lui aussi compté dans sa vie, c'est évidemment Francis Blanche. Ils monteront un superbe spectacle intitulé « Sans issue » du nom de la petite pancarte qui marquait l'entrée des loges aux Trois Baudets. On les entend ici dans l'une des musiques qu'on aime le plus, l'une de leurs réinterprétations les plus belles, celle du boléro de Ravel façon Pierre Dac et Francis Blanche, boléro de Ravel que Jacques Canetti avait lui-même enregistré, rappelez-vous, 20 ans plus tôt.
Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Sans parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Oui,
qui soit un peu comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis.
C'est le parti.
En bref, un parti.
Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci, jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie, et que l'autre partie s'est partie, et compris qu'il faut être en partie répartie, tous en un seul parti. Notre parti,
parti d'Henri.
Le génie de l'absurde et l'impertinence de Pierre Dac et Francis Blanche qui en soir iront un peu trop loin en aspergeant les spectateurs des Trois Baudets d'insecticides, ce qui va conduire à une grosse brouille avec Jacques Canetti. Mais les Trois Baudets, ça n'est pas que c'est ce qu'on appelle ces chansonniers, grande tradition de l'humour à la française, où on est à la fois dans un certain esprit français et avec une veine musicale. Il y a aussi des chanteurs, des vrais, qui démarrent, ou en tout cas qui explosent sur la scène des Trois Baudets. C'est le cas d'un jeune chanteur venu des îles qui va se produire sur la scène des Trois Baudets dès son ouverture dans les années 48-49, qui va enregistrer notamment Clopin Clopin avec Jacques Canetti, mais aussi une autre chanson qu'on aime beaucoup et qu'on entend très peu, une chanson en créole, Maladie d'amour.
Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si oué mi moué, oua machile yé moué. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, chacha si oué mi moué, oua machile yé moué. Pich mimi piti, y piti tout piti, si y'a ti se pangage, mes amis méfiez-li, quand y tête li en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lycée, l'en mort, c'est mitié en batté. En bout de lycée, l'en mort, c'est mitié en batté. Oh, maladie d'amour, maladie des amoureux. Chachez sur moi, mais moi, ou à marcher d'ailleurs moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chachez sur moi, mais moi, moi ma chérie, moi, pich mimi piti, et piti tout piti. Si un dit c'est pas grave, mes amis méfiez-les. Quand il t'est lié en l'air, veillez garder l'angli. En bout de c'est l'en mort, cimetière en bataille. En bout de c'est l'en mort, cimetière en bataille. En bout de c'est l'en mort, cimetière en bataille. En bout de c'est l'en
cacasse pour te dégoter du boulot. Tu vis chez moi comme un salaud. Tu mets mes fringues et mes limaces, mon pote. J'en ai marre de faire le crétin. Tu prends ma soupe et ma barbaque. Tu passes ma femme dans les coins noirs. Tu fumes mes pipes et mes cigares. Et quand je râle, tu me fous des claques, mon pote. Demain, demain dans le premier train, bon. Oh, va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Tu t'es trop foutu de moi. Oh, va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Tu peux rentrer chez toi. Y'a des mois, y'a des mois, y'a des mois, y'a des mois. Que ce truc dure. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi. Je vais te foutre mon pied sur la figure. Oh, va te faire cuire un neuf, man.
Va te faire cuire un œuf, man, l'un des chefs-d'œuvre, l'une des tentatives les plus génialement drôles à raconter, mais les plus oubliables sans doute de la carrière de Jacques Canetti. Vous entendiez Henri Cording, alias Henri Salvador, car oui, en 1956, et Jacques Canetti part aux États-Unis avec l'un des talents qu'il a découvert, un jeune compositeur jazzman qui n'est autre que Michel Legrand. C'est vraiment Canetti qui va lui mettre le pied à l'étrier. Il a découvert ce nouveau genre qu'on appelle le rock'n'roll aux États-Unis. Il va demander à Michel Legrand de produire des titres rock. Évidemment, ce n'est pas du tout son créneau. Donc, Legrand va demander du secours à Henri Salvador et à Boris Vian. Boris Vian qui doit charger des paroles, mais aucun des trois artistes ne prend vraiment le rock au sérieux, en tout cas ne s'y intéresse. En une seule après-midi, Boris Vian va écrire des paroles clairement affligeante, on peut l'entendre ici, comme l'écrit Françoise Canetti, Rock'n'Roll Mops ou Va te faire cuire un œuf. Michel Legrand qui bâcle, hein, vous l'entendez, les arrangements qui sont encore très jazzy, et Salvador qui enregistre le tout, qui chante, et tout cela en demandant une seule condition, que son nom n'apparaisse pas. C'est pour ça que cette chanson est créditée en recording. On voit bien ici qu'effectivement, c'est le premier rock français, il est tout à fait oubliable, les artistes eux-mêmes l'ont oublié, mais cela dit à quel point l'ambiance des Trois Baudets, c'est une ambiance de bande, c'est une ambiance de collaboration. Vous l'avez entendu, il y avait Michel Legrand, il y avait Henri Salvador, il y avait surtout Boris Vian, grand jazzman qui avait fait ses armes au tabou, écrivain notoire, tout jeune homme, extrêmement enthousiaste, qui vit à mille à l'heure et on sait pourquoi. Évidemment, c'est à Jacques Canetti, et oui, qu'on doit absolument les chansons, tout le répertoire merveilleux de chansons de Boris Vian, comme il le racontait lui-même.
Boris m'a dit, ah oui, moi j'ai écrit des chansons, tiens, je dis, vous avez écrit des chansons, mais je ne les connais pas, vos chansons. Mais si, alors... Et il m'a joué, Jimmy m'a joué, Boris a chanté mal, mais il m'a chanté un certain nombre de chansons, je veux dire pas mal de chansons, et j'étais ébloui. C'est Je suis snob qui émerge de tout ça, parce que c'était la chanson de Boris. C'était vraiment celle où il était tout à fait lui. Il m'en a chanté une foule, et je disais toujours, vous en avez d'autres, vous en avez d'autres, vous en avez d'autres. Et puis après, je lui ai dit, mais comment ça se fait que personne ne les chante? Et Boris m'a dit, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Je les ai montrés, personne n'en veut. Et là, j'ai pris une de mes décisions rapides, comme toujours, et héroïque, en disant à Boris, il faut que vous les chantiez vous-même, puisque personne ne veut les chanter. Vous, Boris, vous allez les chanter. Ah, ou ça? Mais en Trois Baudets. Ah, mais il m'a dit, formidable. Ça ne s'est pas passé bien. Ça ne s'est pas passé bien. Parce qu'évidemment, je pourrais dire que ça s'est très bien passé, mais ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas bien passé. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un d'affolé, mais qui ne voulait pas montrer qu'il l'était, parce que Boris était quand même assez orgueilleux. Il y avait tous les copains dans la salle. Boris est grand, très grand. Le théâtre des Trois Baudets était petit. La scène était petite. Quand Boris rentrait, on avait une impression curieuse de cette espèce de manque de proportion entre les deux. Bon, évidemment, on a tous dit que c'était bien, mais on ne peut pas dire... C'est horrible ce que je vais dire, parce que moi, je me considère quand même comme un ami fidèle de Boris, et de dire, après coup, que les débuts se sont mal passés, c'est pas bien. Pourtant, ça ne s'est pas très bien passé.
Je suis snob. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, c'est batte. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un, tu le sais, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, foutrement snob. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je fais l'amour, c'est à poil dans la cour. On se réunit avec les amis tous les mercredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, chisne. Encore plus snob que tout à l'heure. J'ai une foudroyante garde-robe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob. Ha ha. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
L'inénarrable Boris Vian, ici un peu hésitant à ses débuts, première version de Je suis snob. Boris Vian que Jacques Canetti va soutenir tout au long de sa carrière, à qui il donnera son premier poste payé. Il va lui confier les programmes de jazz et de chansons françaises. C'est le dernier boulot qu'il aura avant de mourir, évidemment, de manière prématurée à 39 ans. Et ensuite, Jacques Canetti et sa fille vont tout faire pour que tout le répertoire, y compris les inédits de Boris Vian, voient le jour et soient estimés à la valeur qu'ils ont. Grâce à eux aussi, grâce aux Trois Baudets, on entendra beaucoup de chansons de Boris Vian, dont une qu'on aime beaucoup, des chansons sur le plaisir féminin, sur l'orgasme des femmes, des chansons aussi qui prônent une forme de féminisme, beaucoup interprétée par lui, mais aussi par plusieurs chanteuses qui se produisent aux Trois Baudets, par exemple cette version de Béatrice Moulin d'une chanson qu'on adore, Ne vous mariez pas les filles.
Élément d'une biographie de Boris Vian, avantageusement connue sous le nom de Bison Ravi. D'où mon nom.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Faites plutôt du cinéma. Restez plus seul chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougna. Élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile ou le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner. Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face d'aura friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala. Allez danser à l'Olympia. Changez d'amant quatre fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de beaux petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de votre d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je biche car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tout l'état. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en oignons, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas, leur auraient même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas.
Hécatombe, Georges Brassens, une chanson qu'on doit au génie mais aussi au courage de Jacques Canetti qui, vous l'avez entendu, n'a jamais hésité à produire les chansons féministes de Boris Vian qui faisaient plus réagir les femmes et frémir les hommes comme Ne vous mariez pas. Évidemment, Le Déserteur avait valu à Boris Vian de sérieuses attaques aux Trois Baudets. Ce sera le cas aussi du tout premier disque du très jeune chanteur que produira Jacques Canetti. C'est à lui qu'on doit Georges Brassens qui avait été repéré par Patachou, grande femme de cabaret qui interprétait ses chansons, mais Georges Brassens n'osait pas chanter ses chansons lui-même, chansons qui étaient par ailleurs beaucoup trop scandaleuses pour être reprises par d'autres. C'est grâce à lui, grâce à Jacques Canetti, que Georges Brassens publie son tout premier disque, La Mauvaise Réputation, qui est censuré, interdit sur toutes les radios. Et puis en 52, le 78 heures où figure Hécatombe, Jacques Canetti qui croit dans ce jeune homme qui pourtant est anarchiste et n'arrive pas, tant il est empli de trac, à finir une seule chanson sur scène. Non seulement il va le pousser, l'encourager jusqu'à ce qu'il devienne bon sur la scène des Trois Baudets, mais surtout il va permettre permettre à Hécatombe d'être entendu, Hécatombe qui avait été censuré et qui avait été envoyé chez les disquaires de Bretagne, qui l'avait renvoyé en masse en disant que c'était une chanson anticléricale, et que Canetti avait réussi à faire distribuer non pas par Philips mais par Polydor, et où il avait testé les réactions sur le marché suisse, chanson qui avait absolument pas ému en Suisse. Et c'est comme ça que Georges Brassens a pu évidemment entrer dans les oreilles de tous les Français, et ce durablement, une amitié très longue, très riche entre les deux hommes, comme on peut l'entendre ici, où Jacques Canetti et Georges Brassens devisent finalement sur ce qu'est la chanson.
Je considère que la voix est donc ne vient qu'en troisième position. La chose la plus importante, c'est quand même la musique, et la musique vous permet de mieux aimer le texte. Et si la musique est bonne, et si le texte est très bon, vous avez subitement cette chose ultra rare, c'est-à-dire la chanson forte. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Gorille, il y a l'Eau vive, il y a Quand on a que l'amour, il y a Le petit bonheur de Leclerc, il y a Paris Canet de Ferré. Mais regardez bien, je vous cite là comme ça en vitesse des chansons, parce que ce sont les chansons évidentes, mais elles ne sont pas tellement évidentes quand vous allez à la recherche.
Au début, entre une chanson qui a eu du succès et une chanson telle que l'entend Canetti pour la première fois, il y a quand même un monde.
Bon, Georges Brassens est la véritable apologie de Jacques Canetti, il n'a pas un seul défaut.
Oh, il a sûrement des défauts, mais comme tout le monde d'ailleurs qui n'en a pas. Mais peut-être que sa qualité éminente, là précisément, la qualité qui consiste à lui faire rechercher le jamais vu, le jamais entendu, il devient parfois un défaut parce qu'il le ferait presque exprès, vous voyez, il le ferait presque exprès de chercher des artistes qui ne marchent pas et dont les autres ne veulent pas. Ça, c'est son petit travers.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligaud, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Sacrilège de courir la voix de Georges Brassens, mais c'est déjà la fin de ce premier épisode. Et quel épisode consacré à l'épopée Canetti qui continue. Georges Canetti, Brassens l'appelait Socrate, c'est un livre de sa fille Françoise qui est paru aux éditions de l'Archipel. On se retrouve pour un épisode 2 la semaine prochaine. Vous retrouverez Brassens, mais aussi l'autre homme en B, évidemment Jacques Brel, évidemment découvert lui aussi par Canetti, mais aussi Serge Reggiani, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin et bien d'autres. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de France Culture, émission réalisée aujourd'hui par Emmanuel Benito et mise en onde par Grégory Wallon, émission préparée comme chaque semaine par Lou Quevauvier. À la semaine prochaine.
Je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.